Bonjour tout le monde, bonjour auditeurs, auditrices. Spectaculaire commence aujourd'hui en ce mercredi, combien sommes-nous, 22 mars 2017, émission numéro 126. Christophe Rollin au micro, Gérald est ici, Isa devrait arriver et surtout nous recevons, je l'ai annoncé sur le blog, quelque chose d'absolument improbable, Catherine Fève de la Crèmerie Saint-Antoine pour nous parler de fromage, certes bien entendu, et puis d'une manifestation un peu particulière qui arrive à l'occasion des 2 ans de cette crèmerie qui se trouve sur forcément le quai Saint-Antoine. Dans le quartier Cordelier, non loin du pont, même au démarrage de ce pont, Alphonse Juin qui conduit en face du côté de la Saône. Enfin voilà, je bredouille. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va écouter de la musique qui va tout de suite nous plonger dans l'émission. Il est question de fromage. C'est donc François Morel qui va chanter. Nous sommes bien à 14h04 dans l'émission spectaculaire sur Radio Cervelle de Canu. Et ouais, forcément Radio Canu, on s'en veut de ne pas avoir fait le jeu de mots la semaine dernière sur Radio Camus, puisqu'il s'agissait de parler d'Albert Camus. Donc Radio Canu, Radio Cervelle de Canu, 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien vous pouvez tout à fait nous écouter aussi sur internet, c'est le radiocanu.org. Faites-le en direct, c'était notamment recommandé sur le Facebook de la Crèmerie Saint-Antoine.
Coulommiers, Époisses, Bleu d'Auvergne, Beaufort, Livaro, Reblochon, Abondance, Mont d'Or, Crottin, de Chavignol, Chabichou, du Poitou, Pyrénées, de Brebis, Vacherin, du Haut-Doubs, Camembert, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Sous-Maintrain, Roux-de-Brie, Tête de Moine, Mimolette, Boursin, avec 60% de matière grasse.
Gérald, c'était quoi exactement là ce que nous écoutions?
Alors c'était une chanson que j'ai trouvée par hasard. Bonjour d'abord.
Oui, à chaque fois j'oublie cela.
Bonjour Christophe. Isa n'est pas là, peut-être viendra-t-il ou pas.
Nous verrons, auditeurs. Suspense insoutenable.
Le sujet de cette émission, un sujet exceptionnel. Donc, j'ai trouvé ça par hasard, grâce à une playlist que m'a gentiment envoyée notre invitée, puisqu'elle a aussi travaillé à la préparation de cette émission, qu'on va essayer de rendre la plus goûteuse possible. Voilà, et j'ai trouvé par hasard, sur les côtés, une chanson de François Morel. Je ne savais même pas qu'il avait... il a fait des sketchs, la fromagerie Morel, mais il avait fait aussi une chanson, commis une chanson même, qu'on vient d'écouter, donc une 12 minutes. Voilà.
Donc, Catherine, vous êtes la crémière de cette crèmerie Saint-Antoine?
Oui, oui. Bonjour, on
manque à tout ça. Bonjour, en fait, c'est une simple question inaugurale. Qui êtes-vous, Catherine Fève?
Une passionnée de fromage, oui, c'est sûr, c'est comme ça que on s'est rencontrés avec Gérald. Et donc, je suis tombée dans le fromage, dans le bidon de lait, en 2006. Voilà, par hasard. Les hasards font bien les choses. Et donc j'ai été d'abord commerciale, j'ai travaillé pour une coopérative qui fabriquait du Munster, du Brie de Meaux et du Comté. Ça parlera certainement aux gens, des fromages bien connus. Ensuite j'ai travaillé 4 ans pour une ferme dans l'ouest parisien, surtout à vendre des fromages à l'étranger en fait, et après en France. Et puis je me suis passionnée pour le produit que je vendais. Donc j'en ai un peu fabriqué, j'ai fait un stage à l'ENIL, l'École Nationale de Laiterie, pour comprendre ce que je vendais, en fait, parce que le fromage, c'est pas juste un simple produit. Il est très complexe et très intéressant. Et donc du coup, je me suis passionnée, j'ai été fabriquer un petit peu d'Etiva en alpage suisse. Et puis j'ai fait une brève expérience de grossiste en fromage québécois à côté de Montréal. Mais bon, on passe là-dessus.
Ah, mais là-bas, sur place.
Ouais.
À quel endroit même? Dans Montréal?
Rive, enfin.
Trois-Rivières,
au nord, au nord, dans les Laurentides.
Chez Côte-Sémé, dans les Laurentides.
Donc j'ai représenté 6 fermes québécoises et je les ai vendues dans des épiceries dans les environs de Montréal. Et quand je suis rentrée en France, il était évident que le fromage allait m'accompagner à nouveau et j'ai voulu ouvrir une crèmerie. Et puis comme je suis lorraine, j'ai voulu l'ouvrir dans le Nord-Est. Ça s'est pas fait. Ça s'est fait à Lyon avec Franck, un associé qui a enlevé toutes les barrières que j'avais, tous les freins, toutes les peurs. Et donc, on a monté ça le 27 mars 2015. Et donc, c'est l'anniversaire des 2 ans, effectivement, le 27 mars cette année, donc lundi. Voilà.
Mais comment êtes-vous? Oui, bonjour Isa, tu viens d'arriver.
Ça vient de rentrer dans le studio.
Tu as déjà une question sur...
Mais c'est pas grave.
Auditeur, non, il ne faut pas tout raconter, Gérald.
J'avais juste une question. C'était quoi les barrières, les freins que vous aviez?
Quand on monte une société, on a tout simplement peur que ça marche pas. Et en fait, il faut surtout pas avoir peur. Et moi, il a levé toutes mes peurs. Parce que il y a des gens qui ont pas peur, donc c'était bien, c'était un bel équilibre. Moi, j'étais le frein, lui, il était le moteur.
Et pourquoi? Enfin, c'est en termes notamment de financement. Il avait fait toutes les enquêtes de marché qu'il fallait ou non? C'est sa nature.
Il en avait déjà monté, donc il avait peur de rien. Voilà.
Il faut dire que dans ce quartier, il n'y a pas de crèmerie tant que ça, d'ailleurs.
Non, il y en a quelques-unes, en fait. Mais il y a surtout le marché Saint-Antoine, qui est quand même un gros marché. Et surtout, moi, historiquement, je trouvais que c'était intéressant de s'installer là, parce que le quai Saint-Antoine, historiquement, c'était là où tout était déversé depuis la Saône, en fait, toutes les vivres. Et donc, il y a une vraie logique historique dans l'installation à cet endroit-là. De nombreuses personnes ont dit, mais c'est fou s'installer en face d'un aussi gros marché avec 10-12 fromagers le week-end. Mais finalement, le choix, la concurrence, ça crée une dynamique, ça nous motive, ça nous permet de pas nous endormir. Et puis, on vend pas les mêmes choses, on n'a pas le même caractère, on n'a pas la même clientèle. Voilà.
Et puis, pas la même fréquence. Le marché, c'est quoi?
Tous les jours, ouais.
Ah, c'est quotidien, je pensais que c'était
deux, trois
par semaine. Alimentaire. Il y a aussi le
alimentaire, mardi à dimanche. Voilà. Donc, excepté le lundi. Mais c'est que le matin, donc l'après-midi, je prends le relais.
À partir de 15h, il me semble.
Exactement.
Ouf. Donc, il reste encore un peu de temps pour que nous puissions profiter de votre présence dans l'émission. Moi, j'ai quand même une petite question qu'il faut poser. Le fromage, il n'y a pas eu une rencontre avant vos premiers, vers la vingtaine, ça, quoi. 20-25, c'est après vos études. Donc, vous avez indiqué à l'instant que vous êtes devenu commercial, c'est ça le terme? Pas des fermes tout de suite.
Des fabricants. Une coopérative après une ferme. En fait, le fromage, déjà, j'en mange depuis que je suis petite. C'est-à-dire que j'ai un père qui nous a toujours dit, déjà, faut manger tout. Mais en l'occurrence, un repas sans fromage n'est pas un vrai repas.
Il faut citer Bria Savarin.
Effectivement.
Gérald, vas-y, donc, cette
Alors,
phrase.
Ça a été repris dans la publicité. L'Auvergne est un grand plateau de fromage qui a bercé aussi mon enfance, avec des vieux qui disaient, un repas sans fromage, c'est comme une belle fille qui lui manque un œil.
Exactement.
Un peu patois, ruralisé, un peu
qui lui manque un œil.
C'est une vraie phrase du grand Bria Savarin. Voilà. Physiologie du goût, grand classique de la littérature culinaire et de l'art culinaire, n'ayant pas peur des mots.
Tout à fait.
Donc vous en mangiez jeune.
Donc j'en mangeais. Et puis j'ai travaillé 5 ans au conseil export à aider des entreprises lorraines à exporter. Et c'était très enrichissant. Mais je voyais les gens exporter, voyager, parler de leurs produits à l'étranger. Et je me suis dit, je veux le faire. Mais je veux le faire moi.
Et pourquoi le fromage?
Parce que j'ai rencontré en fait des gens qui m'ont fait confiance sur j'ai pris la responsabilité export de cette coopérative. Mais j'aurais pu effectivement choisir, pour tout vous dire, dans les Vosges, j'avais trouvé un poste et vendre des chaussettes en Allemagne. Ça s'est pas fait. Et j'ai choisi le fromage déjà pour le produit, punaise. Effectivement.
Ah bon? Ouf, mais c'est pas une carrière ratée alors.
Ouais,
vous n'auriez pas la chaussette? Non, la chaussette n'a pas perdu grand-chose.
C'est vraiment par hasard. Et en fait, comme je ne suis pas commerciale de formation, il fallait vraiment que je me passionne pour le produit pour être bonne, ou relativement bonne, enfin en tout cas pour vendre. Il fallait que je m'intéresse au produit. Et le fromage, c'est extrêmement facile de se passionner pour ce produit.
Pourquoi?
Mais ouais. alors
déjà parce que on n'est jamais rassasié. Il y a toujours, en fait, il y en a plein. Quand les gens disent il y en a 360, mais il y en a pas 360. Il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Il y en a déjà plus de 1000 en France. Mais moi qui ai travaillé au Québec, il y en a déjà plus de 400 au Québec. Ouais. Donc en fait, quand vous additionnez tout ce qui existe dans le monde, et ils s'en fabriquent de plus en plus dans le monde, même si on peut être chauvin en tant que Français. Les fabricants de fromage, on est quand même les premiers, et ça c'est évident. Mais aujourd'hui, on peut voyager avec le fromage. Et c'était ma première crainte en arrivant à Lyon et en me sédentarisant dans une boutique, alors que j'avais exporté, j'étais dans les avions, les hôtels. Ma première crainte, c'était de m'ennuyer. Mais je m'ennuie jamais. Je m'ennuie jamais. Et c'est ça qui est chouette dans le fromage. On s'ennuie jamais. On peut avoir un fromage différent tous les jours. Et même s'il s'appelle pareil, par exemple, regardez le comté. Même s'il a le même nom. Un comté d'été, un comté d'hiver, un comté affiné par tel affineur, un comté de telle fruitière, un comté qui est jeune, un comté qui a un petit peu plus de fruité, un comté vieux qui est cassant. Enfin, il y a des milliers de découvertes, en fait. Et c'est toujours une découverte. À la fois culturelle, historique, et puis une découverte au niveau des sens. Voilà.
Et qu'est-ce qui se vend le mieux chez vous en termes de fromage ?
Alors le comté, c'est un peu mon chouchou justement, parce qu'il y a une telle variété que voilà. Et en fait, ce qui se vend le mieux, c'est ce que j'aime. Voilà, pardon, mais
de un mieux moi. Une bonne conseillère, ça, c'est important.
Voilà,
vous conseillez bien.
Et ce qui est chouette, c'est que les clients se laissent faire. Ils se laissent faire. Voilà.
Toi, Gérald, tu souhaitais rebondir,
je
non
dire tout ce qu'elle a dit là sur cette immense variété. Nous fait rapprocher le fromage. Bon, déjà, je vais pas faire mon péteux et mon cuistre, mais bon, j'invite nos auditeurs, on mettra un lien à consulter le dictionnaire culturel d'Alain Rey, qui est un énorme dictionnaire sur l'histoire des mots, et si vous vous intéressez à la page fromage dans ce dictionnaire d'Alain Rey, vous avez cette page qui raconte toute l'histoire du fromage, qui est une invention millénaire, de 10 000 ans peut-être plus, liée à, peut-être Catherine nous racontera l'histoire.
Oui,
on en parle dans
ça.
La Bible, on en parle dans toutes les mythologies, c'est complètement universel. Il y a du fromage en Inde, il y a du fromage dans tous les continents. C'est vraiment un truc à la base, la fermentation, et on expliquera en détail peut-être tous les procédés, les affinages, les sortes de fromage.
IGP,
ça serait bien qu'on rentre dans les détails, les appellations
IGP,
aussi.
Oui.
On y viendra, on développera tout ça. Mais voilà, c'est à la base de l'humanité, comme peut l'être la bière, qui a été soi-disant brassée en Égypte pour la première fois aussi, comme le vin. Voilà. Et je voulais dire aussi que ça rapproche le fromage, c'est plus qu'un c'est pas un aliment comme les autres, c'est un aliment qui a à voir l'artisanat, justement, parce qu'il y a une main derrière, il y a comme un sabotier. Voilà, on pourrait presque faire de la politique, hein, l'aliénation au travail. Le sabotier qui fait son sabot de A à Z et qui voit le résultat de son propre travail. Et là, c'est la dimension artisanale. On est loin de l'aliénation au sens marxiste du terme et du travail à la chaîne, quoi. C'est ce qui fait la beauté et la richesse de ce domaine.
Moi, je voulais rebondir aussi sur vous dites qu'il y a une très grande variété de fromages. Est-ce que on pourrait parler de fromage comme on parle de vin? Et ça fait arriver à cette autre idée, notamment ce 27 mars. Ce sera le 27 pile?
Non,
ce sera...
parce que le 27, c'est un lundi. Et donc
jour de fermeture, non?
Non, on est ouvert tous les jours, 7 sur 7. Mais en fait, on était sûr de toucher plus de gens le week-end, bien sûr.
Donc
samedi, dimanche. Voilà.
Dégustation,
dégustation
de fromage.
De fromage, de vin. Et justement, c'est très lié, vous le disiez. De produits d'épicerie qui vont bien avec également. Petite surprise, dégustation de notre première cervelle de Canut, justement. C'est, voilà, on a fait nos premiers essais la semaine dernière, donc on est prêt. Enfin, on l'espère, ce sera à vous de juger.
Et musique.
Alors en musique, oui, il y a des petites chansons. Alors des petits jeux, en fait, ce qu'on veut faire, c'est une kermesse. Tout simplement, ce sera la kermesse à la crèmerie. Ce qu'on aime, c'est, ben moi je trouve que c'est un jeu. Enfin le fromage, vendre du fromage, c'est un jeu. Enfin tous les jours, c'est un jeu.
Il faudra en profiter puisque le quartier est en travaux. Il y a des mauvais côtés, puis il y a des très bons côtés parce que la rue Grenette est enfermée. Il y a très très peu de véhicules, donc il y aura moins de particules fines qui se déposeront sur les croûtes fleuries ou lavées.
Moi,
venez nombreux.
Quelle heure votre?
Alors on ouvre à 8h le samedi, on ferme à 13h30 et on réouvre à 14h30 et on ferme en fin de journée à 19h30.
C'est une fermeture exceptionnelle ce samedi, non?
Comment?
Fermeture exceptionnelle ce samedi un peu plus tard, non? Du 19-20h?
Non, pas particulièrement, non.
Et dimanche sur
Et dimanche, 9h30, 13h30.
Et donc, moi, je parlais de vin parce que concrètement, vous, vous en vendez, c'est ça pour,
fin oui, alors quand je suis rentrée du Québec, j'ai fait une petite formation à Suze Larousse à l'Université du vin. L'idée, c'est que je voulais justement comprendre un petit peu mieux le vin pour pouvoir l'associer au fromage. Parce qu'effectivement, il y a un lien énorme. Hein, on parle de fermentation dans les deux. Enfin, tout est. Enfin, la fabrication d'un fromage, la fabrication d'un vin, c'est extrêmement lié. Et l'association des deux dans la vie, c'est juste magique.
Et historiquement, les paysans, quand il y en avait encore, qui n'étaient pas. Bon, il y en a encore, mais heureusement. Mais ils avaient leurs vignes, ils avaient leur production de fromagère, et ils mélangeaient les deux. Il y avait forcément un point commun entre leur production, les deux.
Et nous, ce qu'on aime bien, enfin, pour tout dire, c'est qu'on adore frotter les fromages avec de l'alcool chez nous.
Ah, la whisky. J'ai lu ça quelque part, je
donc
crois.
Donc là, je vous ai apporté un petit échantillon de Herve à la bière. On l'a frotté à la bière brune. Le Herve, c'est un fromage, la seule AOP belge. Donc c'est une croûte lavée, vous en parliez tout à l'heure, donc type maroilles mais en cube, et donc très odorant, et on le frotte à la bière, on frotte le Munster, donc je suis Lorraine bien sûr, on frotte à la Mirabelle, on frotte le...
Mais concrètement vous faites comment, avec des gants, une mousse, une éponge,
alors,
ça fonctionne de quelle manière
ouais. Alors vous pourriez faire tremper hein, effectivement, ouais. Mais non, on le frotte à la main tout simplement.
Donc c'est-à-dire un peu, on verse un peu d'alcool.
Un petit peu, alors de chaque sur chaque face, sur les talons.
Mais on verse voilà. De l'alcool sur la main ou sur le fromage.
Et puis parfois on passe une deuxième fois pour être sûr qu'il y en a suffisamment.
Et l'alcool ne tue pas les bactéries quand c'est des alcools forts?
Alors,
il se passe quoi en fait concrètement?
Alors, c'est vrai que justement dans les, on parlait fromage fort tout à l'heure. Bon, il y a des fromages forts dans de nombreuses régions et on y ajoute de l'alcool pour que ça dure plusieurs mois. Donc, ça permet de conserver aussi. Mais ce que j'aime, c'est que ça rajoute une petite note de fruité. Regardez, même dans les gâteaux, je suis pas très dans sucré, mais finalement, dans une galette, vous allez rajouter une petite cuillère de rhum ou du kirsch ou voilà. Donc, ça donne un petit côté fruité et ça donne un petit côté fruité au fromage aussi. Il y a une culture de ça aussi en Italie qui s'appelle les fromages ivres, en fait, les fromages ubriaco formaggio. Donc les fromages ivres, ils ont cette tradition parce que quand les Autrichiens ont voulu les envahir, ils ont caché leurs fromages dans des barriques de grappa et de vin. Et quand ils ont ressorti les fromages, ils ont trouvé ça génial.
Le hasard qui fait bien les choses.
C'est au hasard que l'on doit la crèmerie Saint-Antoine, sinon ça aurait pu être une chaussetterie Saint-Antoine, ça aurait été vraiment ballot. Auditeur, peut-être une pause, Gérald, lecture ou un morceau?
Les deux en fait.
Les deux.
Parce que là on vient de parler de fromage, formaggio. Alors voilà, le mot quand même, il me semble, qui vient de 1135 et qui vient de la forme en fait, parce qu'on donne une forme au fromage. Et ça a été abandonné, on a cette racine qui reste en italien, puisqu'on dit formaggio, on est toujours un peu étonné, parce qu'on dit fromage, pourquoi les Français disent fromage? Il faut compulser ça dans l'Alain Rey et dans le dictionnaire qui explique tout. Et avant d'écouter un morceau, un célèbre tube...
Un morceau de fromage, c'est ça?
Non. Français, j'aimerais vous parler des miscellanées culinaires de Mr. Shot. J'étais un peu déçu, parce que Mr. Shot donc, écrit des miscellanées sur tous les thèmes, les règles du sport, et puis toutes sortes de choses. Il en a fait des culinaires, et il y a assez peu de choses sur le fromage, mais j'ai quand même trouvé un petit truc rigolo, qui s'appelle page 31, choisir un fromage. Alors c'est du vieux français, hein, 1393, c'est peut-être plus ancien, je vous lis juste et on écoute le morceau avec la traduction. Le ménager de Paris, donc traité de morale et d'économie domestique composé en 1393 par un bourgeois parisien anonyme à l'intention de sa jeune épouse, énumère les 6 conditions entre guillemets pour connoître bon fromage, pour connaître bon fromage. Donc 1, non mis blanc comme Hélène, qui veut dire pas trop blanc comme la belle Hélène. Non mis plourant comme Magdalène, ni trop coulant comme Marie-Madeleine en pleurs. Non Argus, mais du tout aveugle, ni plein Dieu comme Argus, Argus au milieu. Et aussi pesant comme un bugle, c'est-à-dire de bon poids comme un jeune bœuf. Contre le poule, ce soit rebelle. Ah, on va le toucher, on parlera d'essence encore une fois, on en a déjà parlé, on en reparlera. Bien ferme sous le pouce, et qu'il est tigineuse cotelle, avec une croûte rugueuse, littéralement une surface teigneuse. Voilà, 1393, l'art de choisir un fromage, et on enchaîne avec un tube de Hubert Félix Thiéfen que tout le monde connaît presque.
Les Bretons ont des chapeaux ronds, les Parisiens ont le Panthéon, les Occitans ont Fos-sur-Mer et les Lorrains servent en Schreiber. Les Alsaciennes font des biscuits que l'on trouve aussi à Paris. À ces gens-là, on dit gaga, car ils n'ont pas ce que l'on a. La cancan coyote se teint mes bains franc-comtois, tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à l'arouet. La cancan coyote, ce n'est pas pour ces François, quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit n'est ni ma fouet. Mon gars, tu prends le méton que tu verses dans le caclon, avec de l'ail, avec du beurre, avec ton manche, avec ton cœur. Il faut touiller, ça c'est sûr, sinon ça devient de la confiture. La cancoyote, c'est tout un art, et faut rien laisser au hasard. Et la cancoyote, c'est un mets bains franc-comtois, tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à l'arbouet. La cancoyote, ce n'est pas pour ses françois, tout en cotant la charlotte, on la mange avec les douets. Si avec Charlotte tu vas plus loin, mais de la cancoyote sur le traversin, je te jure mon pote, ce truc c'est dingue, ça te fout le vertige pour le bastringue. Mais va pas le dire aux étrangers, sinon ils viendraient nous la piquer. Et alors fini la cancoyote, on la trouverait dans un sex shop. Et la cancoyote, c'est un mets bains franc-comtois, tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à l'arouet. La cancoyote, ce n'est pas pour ses françois, tout en flottant la charlotte, on la mange avec les douets. La cancoyote, ce n'est pas pour ses françois, quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit nenni ma fouet.
Gérald.
Tout le monde aura reconnu la cancoyote, un vieux tube de Thiéfaine des années 84, 7, je ne sais plus quand. Voilà, hein, une chanson très drôle, qui déjà mélange aussi l'érotisme au fromage, on en reparlera plus tard en fin d'émission, mais il y a beaucoup de points communs, c'est comme avec la cuisine en général.
Auditeur, vous êtes bien sur Spectaculaire et vous êtes sur Radio Cervelle de Canu, donc nous avons indiqué Radio Canu. Vous n'êtes pas le dimanche après-midi, midi, c'est ça, je crois, tire ta langue sur France Culture. Non, nous parlons bien avec Catherine Fèvre de la Crèmerie Saint-Antoine et notamment, ben, puisque c'est forcément la question, nous parlons de fromage. Et d'ailleurs, il faut donc bien poser cette question précisément. Qu'est-ce que c'est que le fromage? Enfin, est-ce que ça peut se définir? Est-ce que, Catherine, comment... Alors après, en gros, le fromage en 3 minutes, c'est ça, je crois? C'est une nouvelle collection, il me semble, ou fromage pour les nuls, enfin... Qu'est-ce que c'est?
Déjà, c'est pas si simple. C'est pas si simple.
Ça commence bien.
Donc, ça peut être très technique, et donc, on va essayer de résumer, parce qu'effectivement, faut pas que ça devienne rébarbatif comme explication. Historiquement, un paysan aurait laissé son lait au soleil, il l'aurait oublié, il l'aurait laissé un peu traîner, il aurait été dans un récipient où il y avait eu auparavant un reste d'estomac de veau, et donc il s'est rendu compte plusieurs heures ou le lendemain que en retrouvant ce récipient que le lait avait pris. Voilà. Et donc, ça se transforme
ça
en fromage.
Ça veut dire quoi ? Pris, c'est épaissi.
Pris, donc il avait caillé. Il s'était transformé en caillé. Le lait, c'est 90% d'eau, comme notre corps. Mmh. Et finalement, une fois que vous avez ajouté de la présure, ce qu'on appelle la présure animale, donc ce que je vous disais, la caillette du veau, en fait, c'est une partie de l'estomac du veau. Donc, en 7 minutes, une pâte molle, donc une pâte molle, c'est une type brie ou minster, une pâte molle, un lait peut prendre, en fait. C'est un lait caillé, la texture devient solide. Et ensuite, pour enlever le petit lait, donc le petit lait, c'est le lactosérum, c'est ce que vous avez par exemple au-dessus d'un yaourt. Vous voyez toujours une petite couche d'eau. En fait, ça paraît de l'eau, mais c'est du sérum. Donc, pour évacuer ce sérum du caillé, bloc de caillé,
c'est vraiment nécessaire. Ce lactosérum n'est pas bon ou n'est pas.
C'est pas que c'est pas bon, mais en fait, il faut que ça devienne solide. Oui.
Oui, mais le petit lait en tant que tel est bon pour la santé.
C'est très bon pour la santé. C'est très nourrissant puisque en fait, le lactosérum, on s'en sert pour deux choses. Le lactosérum doux, donc le petit lait doux, on s'en sert pour faire du lait infantile. Donc pour nourrir les enfants après. Et la deuxième chose, c'est pour nourrir les porcs. Voilà.
Il n'y a pas que ça. C'est un souvenir un peu terrible, mais les anciens déportés de la Deuxième Guerre mondiale, on les réhabituait à manger, à se refaire l'estomac en leur donnant beaucoup de petits laits.
C'est vrai. Donc le lactosérum, on veut s'en débarrasser parce que qu'est-ce qu'on veut ? C'est qu'on veut que le caillé devienne, en fait, on veut l'égoutter. On veut que ça devienne un fromage. Donc, on veut qu'il devienne de plus en plus solide. Donc, il va falloir trancher le cahier. Alors, au sabre, au tranche-cahier, à ce que vous voulez, avec une louche, avec pour le camembert, c'est à la louche, avec une pelle à brie pour le brie de mot. Ce qu'on veut, c'est trancher le cahier pour éliminer un maximum de sérum, de lactosérum. Une fois qu'on a tranché le cahier, on va l'égoutter. Alors, vous l'égouttez autant de temps que vous voulez. Ça dépend ce que vous voulez trouver comme fromage au final, une pâte molle, une pâte dure. Et vous allez pouvoir l'aider mécaniquement si vous voulez une pâte pressée, comme un comté par exemple. Vous allez le presser avec une presse mécanique. Voilà. Donc on égoutte, on le forme dans un moule. Donc le moule, la fameuse forme, la base de l'étymologie, enfin, du terme formage. On le forme, on va le saler. Alors c'est pareil.
C'est nécessaire, oui.
On va le saler pour plusieurs choses. Le sel, ça a trois rôles. Former la croûte, donner du goût et conserver. Voilà, donc on le sale de plusieurs manières. Quand c'est décompté, vous pouvez pas juste le saler à la main. Vous allez le baigner dans des bains de saumure. Donc ils vont nager là. C'est assez impressionnant à voir, ces bains de saumure. Ils vont nager pendant plusieurs heures, 24 heures, voire plus si on est sur des plus gros fromages.
J'y pense comme ça, on peut rater du fromage.
Oui.
Si on fait si une des étapes est
manquée.
Oui,
on peut rater du fromage. Et en fait, un seul petit paramètre, en fait, quand vous empressurez, donc quand vous mettez la pression, il faut faire un contrôle du pH, un contrôle de température. C'est extrêmement précis. Et en fait, le consommateur, il ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui, aussi qui m'a passionnée dans ce produit. C'est tout le travail qui était derrière et l'application de chaque étape, en fait. Vous savez, je vous parlais de la pelle à brie pour former le brie de mot. Il y a des gens qui sont formés à mouler un brie de mot. S'ils le moulent mal, s'ils en mettent un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, ça va faire un fromage casquette qui va être pas joli, qui va pas être du tout régulier. Ce qu'on demande quand même aujourd'hui, c'est de la régularité, que le fromage soit le même que la semaine dernière. Et ben non, c'est pas ça. Et moi, c'est mon rôle aussi, c'est d'expliquer que pourquoi ce fromage, il a pas la même tête que la semaine dernière. Et ben juste, c'est parce que l'humeur du fromager le matin, il était mal luné, il avait mal à la tête, il était fatigué. Le lait, il est pas le même tous les jours, en fait. Il a une matière grasse différente, une matière protéique différente. En fait, c'est des calculs. Donc, quand il n'est pas standardisé comme dans l'industrie, quand on travaille en fromage fermier, eh ben, vous ne pouvez pas avoir un fromage identique toutes les semaines. Et quand on me dit, mais je ne comprends pas, vous n'en avez pas cette semaine en vitrine, et j'ai des fois des hystériques, des clients hystériques. Ils ont raison, parce qu'on peut être hystérique avec le fromage, on peut le vouloir à tout prix. Mais d'un autre côté, on peut aussi se dire, ben là, il n'est pas prêt, on ne va pas vous le présenter, on ne veut pas. On va continuer de l'affiner, voilà, c'est ça qui est riche, c'est que c'est jamais pareil. À chaque livraison, on se tire les cheveux avec les filles parce que on sait pas ce qu'on va recevoir. Ça va durer 3 semaines pour les affiner, des fois une semaine, enfin, c'est jamais la même chose. Il y a jamais de routine. Jamais de routine.
Et en fait, concrètement, ça met à peu près combien de temps pour faire un fromage, est-ce qu'il y a des fromages qui mettent plus de temps, d'autres moins?
Tout à fait, parce qu'après il y a l'affinage, donc les pâtes pressées par exemple, on va affiner les fromages plus longtemps parce qu'on veut qu'ils aient plus de goût. Donc il y a des comtés, alors aujourd'hui c'est un peu la course à l'affinage, donc il y a des comtés qu'on pousse à 36 mois, des fois 48 mois, il y en a qui poussent même plus. Bon, c'est des modes, hein. C'est vrai que le comté, par exemple, c'est un fromage qui se mange en moyenne plutôt à 12 mois d'affinage. Mais c'est long, 12 mois. Et il faut que le fromage, il puisse tenir 12 mois. Et après, ceux qu'on pousse à 18 mois, il faut vraiment une sélection. On a des gens qui sonnent les comtés. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est des gens, c'est des pièces maîtresses parce qu'ils vont définir dans toute la cave d'affinage ceux qui vont pouvoir aller plus loin. Et ceux qu'on va devoir vendre tout de suite, donc ils vont le sonner avec une espèce de petit marteau, et dès qu'ils vont entendre un tout petit trou, donc une lainure, c'est un petit trou dans le fromage, ils vont dire, ah, il ne pourra plus aller plus loin, il ne peut plus aller plus loin. Et c'est magique, enfin c'est pas magique, c'est magique au final, pour le consommateur et pour nous qui en parlons, mais c'est beaucoup de travail en amont, c'est une passion, c'est des fous en fait, ceux qui fabriquent du fromage encore aujourd'hui, moi je leur tire mon chapeau, c'est des fous, et je veux qu'il y en ait encore beaucoup des fous pour qu'on puisse en vendre encore beaucoup.
C'est encore moins comme avec le vin, pardon.
Voilà, oui.
Et est-ce qu'il vous arrive parfois de recevoir du fromage et de vous dire, il m'a un peu l'air raté, au final c'est celui qui va se vendre le plus.
Alors, Alors oui, des fois il y a des ratés qu'on arrive à récupérer. Pas toujours. Mais en soi, c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler dans ce métier, c'est qu'on ne jette jamais. On trouve toujours à récupérer la sauce. Voilà.
Le fromage fort, c'est pas ça d'ailleurs ?
Un peu, oui, c'est ça.
On récupère des regatons d'anciens fromages pour en refaire un nouveau qui a un goût assez
toujours,
terrible.
Et il y a toujours des clients qui seront à la recherche de sensations fortes et qui vont venir et qui vont vous dire « moi je veux le plus hardcore possible ». Et quand vous vous dites « mais celui-là pourra jamais plaire à quelqu'un », en fait tout le monde, et c'est ça qui est aussi fou, c'est que il y a tellement de palais différents, on ne détient pas la vérité nous, et c'est ça qui est chouette, on va goûter avec les clients, on va partager un moment, on va leur dire « mais ça c'est génial », et ils vont nous dire « mais pas du tout, il ne se passe rien pour moi ». Et en fait il ne se passe rien pour vous, bon bah tant pis, on va passer sur autre chose, mais on va savoir, on va trouver ce qui vous plaît, parce que la seule chose qui moi me motive, c'est qu'on passe un moment plaisir, et que la personne quand elle rentre, elle ait du plaisir à goûter ce qu'on lui a trouvé en fait. C'est trouver son fromage à soi. Il n'y a pas quelqu'un qui a tort ou qui a raison. Nous, on ne détient pas la vérité parce qu'on est derrière le comptoir. Il y a juste un échange qui se fait et un palais qui répond.
Vous êtes quasiment fromagiste, comme on pourrait parler de coiffeur visagiste qui essaie de trouver la coiffure pour le client en fonction de son visage. Et vous, c'est le palais que vous travaillez.
Ah non, alors là, Gérald, non, surtout pas fromagiste, parce que vous savez quoi, ce terme-là, oui, ça existe.
Un livreur en gros de Babybel.
Bah, ça veut dire en fait celui qui fait mal son métier sur certains marchés à vendre du second choix fromagiste. À prix d'or, fromagiste.
Eh ben voilà, je savais pas. Merci.
Donc merci du compliment.
Non, je suis désolée, je voulais exactement dire le contraire.
Non, je sais bien, mais c'est vrai que c'est devenu un terme dans notre jargon fromagiste.
Ah, d'accord. Ok. Voilà. Bon, on va pas en faire un fromage. Est-ce que savez-vous, chères auditrices et chers auditeurs, que cette expression vient de 1905 et qu'elle est liée encore au théâtre, puisque faut quand même dire que Spectaculaire, la radio, c'est du théâtre. On invite beaucoup de metteurs en scène, de comédiens. Et cette expression, elle vient des affiches de spectacles de théâtre sur lesquels les noms des vedettes étaient écrits en très 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 gros, c'est-à-dire le fromage. D'où on va pas en faire un fromage. Expression assez récente, hein, 1905.
Je ne le savais pas.
Ben, ouais, moi, j'ai appris dans un arrêt, une fois de plus.
Petite pause
oui. Musicale sur les conseils de Catherine, qui nous a envoyé beaucoup de morceaux à écouter. Alors, on passera avec des extraits hein, plus tard. Celui-là, on va peut-être l'écouter en entier. Il fait 3:41. Il s'appelle Big Cheese. On change de registre, c'est Nirvana.
Big cheese, you make me nice.
Gérald, il faut enchaîner.
On va enchaîner, on écoute Big Cheese de Nirvana.
Big Cheese. D'ailleurs, il faudrait...
De l'album Bleach,
après,
je crois.
Est-ce que Catherine Fèvre, notre invitée de la Camerie Saint-Antoine, saurait-elle pourquoi le, en anglais, c'est, ainsi qu'en allemand, ce mot en anglais c'est cheese, en anglais je crois c'est Käse, le fromage. Ça vient d'où? Il y a plus de racines.
Caséine, queso.
Exactement.
C'est ça la racine étymologique. Dans beaucoup de langues, en fait, on a deux, on a une sorte de séparation. Il y a les mots qui viennent de la forme, fromage, formaggio et compagnie. Et les autres racines en allemand, et vous venez de dire, même en mexicain, en portugais, en tout ce que vous voulez, c'est la racine plutôt de caséine.
Ah, caséine,
ouais,
c'est tout vrai. À fait. Il
portugais,
faut de la caséine.
C'est queijo. Ouais, ouais. Très juste.
Il faut de la caséine dans le lait pour que le lait soit fromageable. En fait, il y a des laits non fromageables. Le lait, je crois que le lait d'ânesse est fromageable, mais il y a très peu de caséine. Mmh. Voilà, en fait, c'est la base pour pouvoir fabriquer du fromage. Oui, ça peut devenir très très technique en fait.
Ouais, parce que dans le monde, on fait du lait avec les brebis, les chèvres, les vaches.
J'ai mangé du lait de chamelle, du lait de chamelle, du fromage de chamelle,
pardon. De yak.
Ouais, de yak,
etc.
Bien sûr. Oui.
Et alors, est-ce pour vous un non-sens, vous qui parliez tout à l'heure de sel, de faire de ces fromages blancs sucrés, de mettre des coulis dessus ou je ne sais quoi, ou des ou même du sucre tout simplement parfois, ou même je me trouve avoir des enfants en bas âge qui eux mettent n'importe quoi, crème de marron, du miel, du sirop d'érable,
crème de marron,
oui,
alors je vends en passant des yaourts de brebis crème de marron d'une petite bergerie qui s'est lancée il y a un an dans l'ouest lyonnais, et c'est vraiment apprécié par les clients. Personnellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un petit problème avec le sucre, je suis pas du tout dans le sucré, donc j'évite tout ça, donc les faisselles, les yaourts, pour moi c'est nature en fait. Mais par contre, je vends des coulis, parce que je vends du miel, parce que effectivement, et je vends aussi des pâtes de fruits. Ça se marie de plus en plus en fait. Ça nous vient surtout de l'Espagne, qui a l'habitude de manger des pâtes de coin avec les fromages de brebis à pâte dure, donc les manchego.
Oui.
Et donc ça s'est démocratisé aussi en France. On mange beaucoup on fait beaucoup de sucré salé. On mange des gelées, des confits de figues avec les fromages. Voilà.
Et vous vendez aussi de la cancoyotte qu'on écoutait tout à l'heure.
Oui.
Il y a une fruitière pas très loin d'ici, Bellegarde-sur-Valserine, il me semble.
Alors non, c'est fabriqué dans le Haut-Doubs par la fromagerie Lehmann, qui est bien connue pour sa cancoyotte. Et donc la cancoyotte, c'est un fromage naturellement allégé, c'est-à-dire que c'est fait à base de méton. La base, c'est le méton, c'est des petits morceaux de fromage fabriqués avec du lait écrémé. D'où le côté light de ce produit. Donc,
alors tout le monde croit que c'est très gras, parce que c'est très crémeux, ça s'effile, c'est épais.
Oui.
En fait, c'est très très light.
Mais c'est comme n'importe quel fromage. Quand vous regardez des fromages qui coulent, les gens vont vous dire « Oh, c'est très très gras !» J'ai peur, non, opération bikini, c'est bientôt l'été, il faut faire régime. Eh ben, pas du tout, en fait, c'est plutôt les pâtes pressées, c'est du condensé de gras, en fait. On presse, donc on a l'essence même du fromage et du gras qui est là. Et donc, tout ce qui est, si vous voulez faire régime, ne mangez surtout pas de comté, voilà, de gruyère, de pâtes pressées, globalement. Ouais. Voilà, donc...
Comment rebondir encore, parce que je me dis il nous reste plus d'un quart d'heure, mais en fait j'ai peur, c'est parce que là on va trouver une question, mais moi je me dis qu'à 15h30 voire 16h on pourrait ne pas avoir encore terminé.
Moi je propose
parce
qu'on écoute un petit morceau, parce qu'on a encore plein d'extraits, écoutez.
La matière est absolument immense.
La matière est infinie.
La matière est infinie.
On renvoie les auditeurs à Wikipédia. En même temps, on est tous des élèves quand on consulte Wikipédia.
Non, si.
Mais si, parce qu'il y a la page est bonne. 600 fromages par ordre alphabétique. J'en ai souligné quelques-uns qui sont merveilleux. Il y a toutes les abbayes, il y a toutes les familles, les briques, les pyramides, les baguettes. Il y a des noms merveilleux. Amour de nuit, Angelot. Alors, Babybel, petite surprise, on garde ça pour la fin. Belle des Champs aussi, hein, Bichonnet. Alors, il y a Bite d'âne aussi, hein, c'est un peu moins poétique. On a aussi tous les bleus, il y en a une page entière de bleus. Bricot, à côté du Boursin. On a aussi le bouton de culotte, le Mâconnais, assez connu, hein, qui est Bourgogne et au Beaujolais, Rhône-Rhône-Alpes, c'est chez nous. Le Briat-Savarin, dont on a parlé tout à l'heure, Bourgogne-Normandie, le Brin d'Amour, c'est très, très, très beau, je fais une liste rapide.
Oh là.
Alors, le Caillebotte, qui est un peintre aussi, accessoirement, pour ceux qui connaissent, Charente-Maritime, Bretagne-Vendée, le Caillebotte d'Aunis, le Camisard, la cancoyote ou cancoyote, comme un coyote, hein, deux orthographes possibles, Franche-Comté. Le caprice des dieux, alors ça c'est encore de la pub, hein, des souvenirs de pub qui nous reviennent. Ce sont pas des très très bons fromages, ça flirte avec l'industriel. Quand on parlait d'ailleurs, hein, la distribution de masse et
de
la grande distribution. La cervelle de Canu ou Claqueret ou Tom Daubé au Sarasson, Lyonnais, Rhône. Donc il y a plusieurs noms pour la cervelle de Canu. Le chamois, non, excusez-moi. Le chant d'amour, c'est pas beau ça. Le chat-ours, qui mélange deux animaux en même temps. Le charolais, Saône-et-Loire, Allier, Loire, Rhône, AOC. Alors, AOC, AOP, EJP, il faudra qu'on en parle. Le cœur, il y a les cœurs aussi.
Pause, continue. Allez, non.
Coup de corne, crottin, curé nantais, délice de Saint-Cyr, appelé aussi le Bourseau.
Quelle liste.
Centre-Île-de-France. Déshabillez-moi de Gréco, qu'on écoutera peut-être si on a le temps. Dent du chat, je continue. L'Explorateur, Île-de-France, un fromage qui s'appelle l'Explorateur, c'est quand même pas mal. Fiancé des Pyrénées, alléchant. Figuette du Tarn, Midi-Pyrénées. Le fromage fort de la Croix-Rousse, Lyon, il est dans la liste. Le gratte-paille, Champagne-Ardenne, Île-de-France. Mais on a aussi des trèfles, des tricornes, des trous du cru de Côte d'Or,
attention,
Bourgogne.
Il y a un R, voilà.
Voilà, bon, des vachards, des vieux machins. Des vieux samers, des vieux panés. On a aussi, pour finir, une page entière de tomes, ou de tomes, on doit dire tomes plutôt, ou tomes, des tomes.
Il n'y a pas d'accent.
Le sourire lozérien, le spinozien du Haut-Doubs, le suprême des ducs. Ce sont des fromages. Le sablé, il y a tous les sablés, les pyramides, les ponts l'évêque, très connus, le rocamadour, le rond, le roquefort, le rotondo de Corse, le pavé, toute la famille des pavés, des pierres, des persillés, des picodons, les pierres dorées du Beaujolais, comme l'architecture,
bon,
le Napoléon
bon,
comme un joie fermier, l'ortolan.
Moi,
le pâtichon de Châtillon.
J'en compte quatre, plus ou moins questions à poser à Catherine, à notre invitée Catherine Fèvre de la Crèmerie Saint-Antoine d'ici quelques instants, là, après la pause musicale. Quatre questions. Qu'est-ce que c'est que sont ces termes d'AOC, d'IGP? Ensuite aussi, peut-être une question assez générale. Bon, pourquoi pas? Le fromage est-il bon pour la santé? Ou le fromage aurait-il des vertus particulières? Et puis enfin, il faudra terminer par ça. Ça, c'est nécessaire avant d'arriver à 15h. Quel serait le top, je ne sais combien, top 3, top 5, top 10 de Catherine, avec peut-être, puisque justement elle indiquait que c'était compliqué, un fromage n'est peut-être pas le même d'une semaine à une autre, néanmoins, et puis même si Gérald, si Isa a déjà demandé tout à l'heure quel était son péché mignon, son fromage préféré, c'est le Comté, on aura compris, mais les autres, là,
d'autres après,
on va essayer de trouver un podium peut-être ou un top 5.
Donc, on la laisse réfléchir,
écoutons,
et on chante
voilà.
Le camembert avec Emilio Corfa. Je vous invite à regarder le site.
Un jour dans l'Orne, au cœur de la région, dans les murs du manoir de Beaumoncel, sous les doigts d'une fée Marie-Arelle. De ce temps où un prêtre réfractaire va tendre la main à notre fermière, il a croisé bien des générations, on le marie au thé vert du Japon. Chantons, chantons, chantons le camembert, celui qui a fait le tour de la terre. Le camembert, si fin de Normandie, et que tout le monde entier nous envie. Chantons, chantons, chantons le camembert, ça fait bien deux siècles qu'on le vénère. C'est la saveur et le goût du pays, du bon lait cru de Normandie.
Il est depuis longtemps le compagnon des tables bien garnies par tradition, dans les palais et même sur les bateaux.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, émission historique bientôt, puisqu'elle sera en archive à écouter sur le blog. Et vous êtes en direct sur 102.2 avec Catherine Fèvre, notre crémière, invitée, guest spéciale aujourd'hui.
Et c'est elle
de... Et c'est une encyclopédie vivante du fromage, passionnée par son métier.
Il faut la remercier,
c'est des produits merveilleux.
Et on c'est très intéressant, mais elle est quand même coupable de ce morceau que nous venons d'écouter.
Ah oui, qui est une composition, c'est elle qui est coupable, hein, elle l'a trouvée, elle cherchait des chansons. Alors. Composition de Georges Guyonnet, Emilio Corfa et Sébastien Perrin, extrait du DVD de Emilio Corfa et son orchestre, Normandie, mon pays, produit et distribué par Boulevard Studio, CD, DVD, disponible, allez sur internet, bon. Ceux qui adorent la musette, et regardez le clip qu'on mettra en lien sur le blog, et c'est très très bien.
Encore plus ou moins 10 minutes.
Après Nirvana, ça fait un peu de...
Ben c'est bien. Il nous reste tout de même des titres à écouter et puis surtout donc il nous reste plus ou moins 10 minutes pour partir sur ces différentes pistes. Le fromage serait-il, n'est-il pas, est-il un peu ou je ne sais, bon pour la santé. AOC IGP, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et puis votre top, votre liste de fromages favoris par lequel on commence, pas par les choses techniques, les traits techniques AOC IGP ou c'est pour revenir à... Oui, vous étiez tout à l'heure, on a dû vous interrompre, vous étiez sur le parcours de fabrication puis je crois que on en est resté là, il me semble. Une fois que c'est affiné et tout ça, il est donc prêt à la vente tout de suite? Non, pas tout de suite. C'est
Après, à l'affinage, oui, il est vendu. Et après, c'est au... En fait, c'est des maillons. Hein. Et dans la chaîne, donc il y a le maillon fromager. Et le fromager va prolonger l'affinage, finir l'affinage. Et puis, ça va se terminer chez vous. En fait, c'est à vous de terminer l'affinage. Moi, des fois, quand j'ai des Saint-Marcellin pas assez affinés, je dis aux gens, finissez le boulot. Je leur explique, confinez le fromage dans une petite boîte ou alors laissez-le dans le film. Mais ne le faites pas sécher.
Au frigo, dans le bac à légumes.
Oui, ou alors dans des garde-manger ou dans des pièces plus fraîches. Voilà.
Pas de lumière. Un peu d'humidité, mais pas trop.
Normalement, beaucoup d'humidité, mais ça dépend ce que vous voulez.
Pas de lumière.
Si vous voulez le sécher, en fait, si vous voulez un pigodon bien sec, faut le sécher.
Ça, voilà.
Si vous voulez un Saint-Marcellin bien crémeux, faut le confiner avec l'humidité.
Et alors, les AOC IGP, ça arrive quand, ça?
Alors, ça arrive en 1925. Avec le Roquefort déjà.
Et moi j'étais et dans la chaîne de production de la chaîne de fabrication.
Alors ça arrive au tout début. Tous les fromages ne sont pas IGP ou AOC ou AOP.
Ça signifie AOC, je crois qu'on connaît.
Alors AOC appellation d'origine contrôlée, donc contrôlée par la France, enfin chez nous. Et IGP c'est arrivé, je crois fin des années 90. C'est l'Europe, en fait c'est contrôlé par l'Europe. Donc IGP c'est appellation des origines protégées. Et ensuite IGP c'est indication géographique protégée. Voilà. Donc IGP, on parlait Brias Savarin tout à l'heure, il est devenu IGP là où il est en cours, ma mémoire me fait défaut. Une des dernières IGP aussi le sous-maintrain, très peu connu. Fromage à croûte lavée. Et donc on a 50 appellations en France. On a 45 fromages. Il me semble qu'on a 3 beurres et 2 crèmes. Ou l'inverse, 2 beurres et 3 crèmes. Non, oui.
Je ne sais pas si j'en crois les indications. Plusieurs appellations de fromage bénéficient de protection incluant l'encadrement de leur fabrication. 45 appellations de fromage bénéficient de l'appellation d'origine contrôlée AOC au niveau français et de l'appellation d'origine protégée AOP au niveau européen. 6 appellations de fromage bénéficient de l'indication géographique protégée IGP. Et 6 appellations de fromage bénéficient de la marque Label Rouge. On n'en a pas parlé.
D'accord, voilà. Oui. Bon.
C'est pas grave. Et par contre, alors je viens de découvrir ça, depuis 2001, ça fait 16 ans, l'association Fromage de Terroir organise tous les ans, à la fin du mois de mars, une journée nationale du fromage.
Le 27, figurez-vous, c'est fou quand même.
Le
27, c'est la journée nationale du fromage, donc 27 mars.
Et rappelons que le 27 mars 2015, ça a été...
C'était la première journée de la crèmerie
Saint-Antoine. À quel numéro? C'était au
20 Saint-Antoine.
20 quai Saint-Antoine. Tu souhaites encore
passer un petit morceau, mais vraiment pour faire de la provocation, c'est parti. Vous allez tous le reconnaître.
On parle de morceaux.
Puisqu'on parle de bon fromage, on va écouter un générique de mauvais fromage.
Les grands dîners, les moments décontractés au Babybel. Tu es rigolo, on t'adore en solo. On pense toujours à toi pour tous les moments sympas au Babybel.
Babybel, le bon petit fromage qui se sent bien partout.
Mademoiselle Marguerite, c'est maman qui dit que s'il n'y en a pas avant midi, on change les crèmeries.
Jean-René
Babybel, ton bon petit coup nous rend tout doux. Babybel,
Babybel, ou changer de crèmerie.
Marguerite, tu me plais.
Ba-ba-ba, mini-mini, mini-babybel, mini-mini, mini-mini, toujours avec nous,
c'était une adaptation des Beach Boys et leur titre Barbara Ann, le fameux, la fameuse pub historique que tout le monde connaît.
Donc, c'était encore du rock. Est-il AOP, IGP, IGC, AOC?
Non, il est bien commercial, mais quelque part, il a le mérite d'exister, d'avoir tracé le sillon pour le fromage. C'est vrai. Même les gros nous ont tracé le sillon.
Et ça nous fait une transition magnifique, à moins que vous souhaitiez continuer. Oui.
Alors, juste pour vous dire, vous me demandiez à partir de quand IGP, AOP, bah c'est des fermiers qui se mettent d'accord, qui s'entendent sur un mode de fabrication et qui ont envie de, qui est vraiment un cahier des charges strict dans leur type de fabrication de fromage. Mais c'est 45 fromages seulement dans tous ceux qu'on a. Donc, voilà, c'est vraiment une minorité. Par contre, ce qui est vraiment important de souligner, c'est cette chance-là que finalement, quand on vend les fromages, on sait d'où vient le lait. Hein. C'est nos agriculteurs, c'est notre France, c'est notre agriculture. C'est
la France qu'on aime.
Mais c'est vrai. En fait, on va pas fabriquer du fromage fermier avec du lait qui vient de Hollande. Enfin, j'ai rien contre les paysans hollandais, mais c'est ça aussi qui m'a touchée, c'est que ça vient de chez nous. Il y a une vraie histoire et il y a des vrais gens derrière. Et on ne va pas chercher en Chine comme on va chercher en Chine beaucoup de choses aujourd'hui. Quoi.
Est-ce que les Chinois font du fromage d'ailleurs?
Oui, maintenant.
Il est bon,
oui.
Vous l'avez goûté?
Oui. Non.
Vous avez envie de le goûter?
Mais il y a des camemberts qui sont faits en tube qui peuvent s'appeler camembert fabriqués au Japon. Il y a un birman qui fabrique et il n'y a pas à rougir de la fabrication française. Il fabrique des espèces de valençais en Birmanie. Et très bon, il paraît. Bon, moi, je ne les ai pas goûtés, mais. Il se fabrique un persillé, un bleu dans l'Oregon que je vais vendre en fin d'année et que j'ai déjà vendu à Noël il y a un an et demi. Au lait cru, dans l'Oregon, aux États-Unis. Un bleu extraordinaire. Ah oui. Voilà, donc on nous tire vers le haut quand même. Donc il faut vraiment qu'on nous tire aussi vers le haut en France, qu'on garde la qualité de ce qu'on fait. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'exploitations qui disparaissent, de concentrations, de rachats.
La crise du lait récente qui continue, j'imagine.
Oui, oui, oui.
Le prix du lait d'agriculteurs sous-payés.
Bien sûr.
Le
donc
et compagnie.
Donc voilà, il faut soutenir notre agriculture et pas tirer vers le bas. Voilà.
Vous goûtez pas tous les fromages que vous vendez, donc.
Si, c'est horrible. Hein. C'est horrible comme métier.
Elle ne vend pas de fromage chinois.
Elle a des curiosités. Hein.
Je goûte tout.
Ok.
Il y a vraiment des curiosités, il y a vraiment des fromages haut de gamme, on va dire.
Oui, c'est vrai.
Pour les fadas de fromage, il faut vraiment aller voir parce qu'il y a des grandes curiosités et ils sont tous toujours très bons.
Merci.
Alors, moi, ce que j'en sais, ben voilà, à l'instant, je vais attraper ce mot bon. De manière générale, je suppose qu'il y a des bons ou mauvais fromages peut-être, mais de manière encore plus générale, est-ce qu'on pourrait dire que le fromage est bon pour la santé ou je ne sais quoi? Enfin, comment qualifier, comment aborder légèrement ce débat? De toute façon, concrètement, Catherine, hein, il nous reste 4 minutes, donc c'est très bien, vous allez devoir faire court. Et puis, il faut encore écouter.
Alors,
aussi.
Je vais faire très court, je ne rentrerai pas dans cette polémique où il y a quand même des lobbies des deux côtés.
Point trop d'infos.
Voilà, point trop d'infos. Et donc, en gros, le tout, c'est de se faire plaisir. Si vous pensez que c'est pas bon pour votre santé, bah, allez plus sur des fromages de chèvre ou de brebis. Ça a la cote aujourd'hui parce qu'on dit que les propriétés de ces laits-là sont meilleures pour la santé. Il y a de quoi faire. Il y a une variété de plus en plus large en fromage de brebis et de lait de chèvre. Donc, allez-y là-dessus. Moi, je pense que c'est comme on le disait tout à l'heure, dans le vin, et ben, c'est pareil. Il faut y aller à petite dose. Et puis, surtout le matin, surtout le midi, éviter le soir pour que la matière grasse s'élimine au fur et à mesure de la journée. Voilà.
J'ai envie de remercier notre invité, de lui rendre hommage en finissant l'émission avec cette Belle des Champs qui bagnote dans sa campagne. Et dans la version intégrale, parce que vous connaissez tous la pub, hein, la Belle des Champs, mais c'est une chanson un peu grivoise, forcément, puisque quand on parle de cuisine, on parle aussi d'érotisme. C'est lié, ce sont les plaisirs de la vie dont il faut profiter. Alors on lira pas le ventre de Paris de Zola avec des descriptions absolument hallucinantes, géniales, mais dans le côté un peu maléfique et parfois un peu nauséabond du fromage que certains nous envient pas du tout. D'ailleurs ils nous traitent de fromage qui pue, hein, mais on peut en être fier. Voilà. Donc on finit avec ça. Parole Christophe pour saluer nos auditeurs, nos auditrices et nos auditeurs.
Bien entendu. Donc je t'en prie.
C'est parti.
C'est prêt.
Tu bagues nous deux dans les pâturages. Tu t'en vas te promener, Belle des Champs, qu'il est blanc, qu'il est crème ton fromage, dit, donne-nous-en un peu, belle des champs. Dis, tu nous en donnes, dis, oh oui, donne-nous-en. Donne, 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 dis, belle, belle des champs. Dis, donne-nous un peu de ton fromage. Tout le monde t'aime tant, belle des champs. Tu joues de l'échancrure de ton corsage. Des étincelles dans les yeux, belle des champs. Ta coquetterie nous pousse au badinage. Nous sommes tout pantelants, belle des champs. Dis tu nous en donnes, dis oh oui, donne-nous-en. Donne, 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 dis belle, belle des champs. Nous on est prêts à tous les dérapages. Depuis le temps qu'on attend, belle des champs.
Belle des champs, belle des champs.
Depuis que tu es dans le paysage, nous sommes tes soupirants. Nous aimerions te voir tourner la page et hausser le ton d'un cran. Tu es bien trop sage. Fais-nous la danse du serpent, belle des champs. Sans aucun habillage, le derrière et le devant, belle des champs. On veut te voir dépiauter l'emballage et manger de toi tant t'es temps,
belle des champs.
Dis tu nous en donnes, dis oh oui, donne-nous-en. Donne, 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 dis belle, belle des champs. On veut te voir sauter dans les fourrages, la culotte entre les dents,
belle des champs. Belle des champs.
Tu t'en vas te promener, belle des champs. Qu'il est blanc, qu'il est crème, ton fromage. Dis, donne-nous-en un peu, belle des champs. Dis, donne-nous-en un peu,
belle des champs.
Tout le monde t'aime tant, belle des champs.
C'est un tube que tout le monde connaissait, mais pas dans sa version intégrale. Une chanson très grivoise, comme vous aurez pu l'entendre, avec des rimes riches en âge. Voilà, alors mangez du fromage. Et je crois que Catherine Fèvre, notre invitée, a quelque chose à dire, voulait clore cette émission.
Il est 15h, on ne clôt pas, auditeur, on ne laisse pas la place au Blues des Canuts parce que Pascal n'est pas là. Donc voilà, on lui mange, hein, d'ailleurs c'est un peu l'expression qu'on peut bien employer, on lui mange quelques minutes et retrouver le Blues des Canuts la semaine prochaine, mercredi 29 mars. Aujourd'hui, voilà, léger dépassement de spectaculaire. Catherine Fèvre de la Crèmerie Saint-Antoine, je vous en prie.
Mais vous m'avez demandé quel fromage j'aimais. Et c'est vrai
top,
que j'ai parlé
liste.
Du comté parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de routine dans le comté. Par contre, j'ai vécu une expérience dans les alpages suisses en fabriquant du Letiva. Alors, ça s'écrit E-T-I-V-A-Z. Mais le Z ne se prononce pas.
Ah bah oui,
donc,
oui,
c'est
oui.
un fromage d'alpage suisse. Qui a changé ma vie et qui a vraiment, enfin, voilà, c'était une sacrée expérience. J'ai fait Heidi, j'ai joué Heidi pendant une semaine. Une fabrication chaudron cuivre sous le feu de bois avec des gens passionnants. Des notes, en fait, vous êtes en Suisse, mais quand vous goûtez ce fromage, vous avez l'impression d'être sur les îles avec des notes de fruits exotiques. C'est vraiment un fromage magique. Toute petite AOC. AOC, on parle d'AOC en Suisse, puisque la Suisse n'est pas dans l'Europe, donc on parle pas d'AOP. Et ensuite, un autre fromage qui m'a été amené de découvrir il y a pas si longtemps que ça. Enfin, je le connaissais déjà, mais la fabrication, je l'avais jamais vue. En septembre dernier, je suis allée voir une production de Salaire Tradition. Salaire Tradition, ça veut dire que c'est un fromage qui est fabriqué à 100% en lait de salaire, sachant qu'une vache Salaire ne donne en début de saison que 15 litres de lait comparativement à une Holstein pisseuse de lait qui en donne presque 30. Et donc la moitié moins, et en fin de saison de lactation, la Salaire va donner 8 litres de lait. Donc c'est rien. pour une vache. Et elle ne donne que si elle a son petit veau à côté. C'est une fabrication magique également, qui nous permet de d'aussi communiquer aux clients et aux passionnés du fromage en face du comptoir tout ce qu'il y a derrière de difficultés de fabrication. Il y a des jeunes qui reprennent les exploitations des parents. Il y a une continuité et ça c'est vraiment super. Donc Salaire et Tiva, comptez mes préférés.
Les vendez-vous, tous ces fromages, oui, à la Crèmerie Saint-Antoine? Ah. Oui, les trois. Et alors, sont-ils identiques d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre? Non.
Non.
Mais bon, il y a quand même des choses qu'on retrouve. Hein.
Oui. Il y a des notes. Des notes et des textures qui sont proches.
Ça veut dire qu'à l'aveugle, on pourrait penser, peut-être vous pas, mais Gérald, moi, Isa, je ne sais pas, on pourrait penser que ce sont des fromages différents, carrément?
Oui, on peut même se faire avoir nous. Hein.
Ah oui.
Oui, bien sûr. Même le Salaire tradition, vous pouvez. Il y a des productions comme le Layol qui ressemblent quand même. Vous êtes en cahier broyé. Enfin, vous avez la même technique de fabrication. Vous pourriez vous faire quand même avoir. Hein. C'est comme on en revient au vin. Dégustation à l'aveugle dans un verre noir. Mmh. Vous pourriez trouver que c'est du blanc et finalement c'est du rosé ou c'est du rouge et en fait c'est du blanc. Vous pouvez avoir du tanin dans des blancs et penser que c'est du rouge. Vous pouvez vous faire avoir, et nous aussi.
Est-ce qu'on l'a bien prononcé ce mot? Je ne sais pas, pendant cette émission, l'important c'est quand même un plaisir. Et vraiment réel, d'après ce que vous dites, c'est même plus que réel. Il y a un plaisir immense. On peut trouver...
On ne va pas lancer le débat sur bio maintenant, c'est trop tard.
On peut trouver
encore une heure.
Un épanouissement gustatif, olfactif, épanouissement total fou en mangeant du fromage. C'est vraiment très important.
On est sur Radio Canu, une fois n'est pas coutume, j'ai pas envie de dire mort aux vaches, j'ai envie de dire merci les vaches, moi. Voilà. Alors, les véganes,
merci les vaches.
Voilà, ça changera un peu.
Générique de fin d'émission, il faut quand même clore parce que la matière est infinie. Il y en a combien? Les communes, on dit 36 000 communes en France, c'est ça? Et les fromages, il y en aurait peut-être autant que de communes, c'est ça? Non, vous avez parlé de milliers tout à l'heure.
Des milliers de fromages.
Auditeurs, fin de cette émission, vous pourrez retrouver tout un tas d'éléments de précision sur le blog de l'émission, comme d'habitude, spectaculaire, mais également aller consulter la page Facebook de la Crèmerie Saint-Antoine, puisque le rendez-vous d'aujourd'hui était annoncé sur d'ailleurs, un lecteur de votre article avait renommé notre radio CRL de Canuf. Enfin, voilà, c'était très amusant pour aujourd'hui. Je souhaitais faire quelques annonces, je n'ai plus le temps. Voilà, le festival Mémoire continue à l'Opéra. J'ai tout fait sur le blog, tout est indiqué. Il y a beaucoup de musique actuellement, là, que ce soit à l'auditorium, à l'Opéra. Et alors à l'Opéra, pour avoir vu hier le Tristan und Isolde, c'est absolument génial, brillant, prodigieux. Même si hier une partie du personnel technique était en grève, les chanteurs sur scène étaient mais incroyables. Tristan peut-être un degré au-dessous de Isolde, qui était mais stupéfiante, quoi. Très bien aussi. Marc Zergut, Electra, je ne l'ai pas encore vu, je crois que c'est très bon. L'Incolonazione di Popea, c'est terminé, avec le chef Sébastien Desrain qui était passé chez nous. Oui, Gérald?
Eh bien, vous avez encore 3 jours pour participer, aller voir des concerts du festival Quand les souris dansent, qui se tient.
Je l'ai mis sur le blog. Sur le blog, j'ai dit que je parle un peu des scènes principales. Auditorium, voilà. Il y a Jeff Mills la semaine prochaine.
Les souris dansent, avec des concerts de musique, encore des pièces de théâtre, je crois. On mettra le lien sur le blog.
David Frey sera pianiste cette semaine, vendredi 24 mars, juste à côté de chez nous, la salle Rameau pour piano à Lyon. Voilà, il y a des choses plus petites, plus grandes qui se passent. Mais la grande date à retenir, c'est samedi 25 et dimanche 26 mars. Il faut se rendre à la Crèmerie Saint-Antoine pour fêter les 2 ans de l'existence de cette crèmerie et déguster différents fromages avec du vin. Merci Catherine.
Merci à vous.
Les gars, à la semaine prochaine. Merci. Philippe Forcioli sera assez particulier.
On sera gratifié, j'espère, de chansons directes d'un très grand compositeur.
Philippe Forcioli, univers poétique.
Poète qui rend hommage à tous les
peu communs,
les poètes.
J'indiquais.
Il a récemment rendu hommage à Guy Cadou et puis il se produira à Lyon discrètement.
Allez, générique se termine. Gérald, au revoir tout le monde. Bon après-midi. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Salut, ciao tout le monde. Bye.